9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche, Noël approche, jeudi prochain nous aurons le droit de réveillonner en famille, le couvre-feu sera levé pour la fête préférée des Français, mais on a beau adorer Noël, on ne sait pas grand-chose sur cette célébration qui remonte beaucoup plus loin qu'on ne croit. Vous savez, vous, de quand date le Père Noël, et le sapin de Noël, et le réveillon de Noël? Alain Cabantou, le grand historien de Noël, va tout nous dire, mais d'abord Arnaud Gossman, professeur de droit, va nous éclairer sur le référendum climat annoncé par Emmanuel Macron. Apparemment, ce serait déjà dans la Constitution. Arnaud Gossman, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la tenue d'un référendum qui permettra d'inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. Les journalistes se sont immédiatement répandus en conjectures. Le président fait un pari risqué. Le texte devra être adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est pas gagné. Les Français, de leur côté, ont déclaré une large majorité des deux tiers être favorables à la victoire du oui, mais seulement 35% d'entre eux étaient certains d'aller voter. Le plus drôle, toutefois, c'était du côté des professeurs de droit que ça se passait. Ils s'amusaient beaucoup de toute cette agitation et pour cause, tout ce que nous promet Emmanuel Macron serait déjà dans la Constitution. C'est aussi votre avis, hein, Arnaud Gossman. Je précise que vous êtes professeur associé à la Sorbonne de droit de l'environnement.
Oui, tout à fait. La charte de l'environnement voulue par Jacques Chirac a intégré notre Constitution à la même valeur que la Constitution de 1958. Et cette charte de l'environnement parle beaucoup d'environnement et comporte une phrase à son article 2 qui a le même objet que la phrase que Emmanuel Macron souhaite inscrire à la demande de la Convention citoyenne pour le climat dans la Constitution de 1958. Donc pour résumer, il n'y a pas si longtemps que ça, nous nous sommes déjà dotés d'un texte constitutionnel qui consacre la préservation de l'environnement. Donc l'environnement est déjà mentionné dans la Constitution, à plusieurs endroits d'ailleurs. Et puis, le plus drôle, pour reprendre votre expression dans tout ceci, c'est qu'en plus, la phrase que comporte la Charte de l'environnement est plus ambitieuse et mieux rédigée que celle qu'Emmanuel Macron, à la demande des citoyens, souhaite inscrire à l'article 1er de la Constitution. Donc c'est vrai que la première chose que l'on se dit, c'est qu'est-ce que ça va porter d'un point de vue juridique? Alors pour être tout à fait honnête, il y a aussi des juristes qui pensent que cette révision constitutionnelle pourrait avoir un intérêt, notamment symbolique. Ça serait symbolique d'avoir un débat sur l'environnement, d'en reparler, c'est toujours ça de pris. Et puis inscrire le plus de fois possible une référence à l'environnement dans la Constitution, symboliquement, ça en renforcerait l'importance. Bon, pour ma part, j'ai tendance à penser que le droit est déjà truffé de symboles et sur le fond, à penser que la priorité, c'est d'appliquer ce qui existe déjà, c'est-à-dire cette charte de l'environnement.
Mais justement, parce que là aussi, alors je sais pas si c'est symbolique ou en tout cas c'est de l'humour, le Conseil constitutionnel a rendu le 10 décembre, 3 jours après l'annonce du président de la République, une décision qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, à nous les journalistes, c'est que le respect de la charte pour l'environnement de 2004, alors je le cite, hein, posant le devoir de prendre part à la présidence et à l'amélioration de l'environnement s'impose à la loi. Le Conseil constitutionnel le dit clairement.
Alors, il est exact que le Conseil constitutionnel, à de nombreuses reprises, a reconnu la valeur et l'intérêt de la Charte de l'environnement, mais il est tout aussi exact qu'il est assez timide, qu'il est assez prudent. La décision que vous venez de citer, c'est une décision sur la loi qui réautorise de manière ciblée l'utilisation d'un pesticide qui s'appelle les néonicotinoïdes. Et c'est vrai que les défenseurs de l'environnement ont été assez déçus que le Conseil constitutionnel ne se saisisse pas de la Charte de l'environnement pour interdire cette disposition au nom de la Charte de l'environnement. Donc oui, le Conseil constitutionnel prend au sérieux la Charte, mais ne l'applique pas avec beaucoup de fougue. Et c'est pour ça que certains disent, bah écoutez, pourquoi ne pas reparler d'environnement pour que le Conseil constitutionnel en fasse plus souvent application. Alors c'est vrai que l'argument porte. Que faire pour que le Conseil constitutionnel s'occupe plus d'environnement? Pour moi, l'argument, malgré tout, est assez faible. Que faire pour que les élus au Parlement se saisissent davantage d'environnement? Que faire aussi pour que notre administration, nos entreprises appliquent davantage la Charte de l'environnement? Je pense que c'est en amont qu'il faut réfléchir. Comment se donner les moyens de faire en sorte que les textes que nous inscrivons dans notre Constitution, un, on les applique, et puis deux, qu'on se dise pas quelques années plus tard, ah bah, il faudrait peut-être en voter de nouveau puisque les anciens ne fonctionnent pas. Hein, vous savez, on est dans un pays où on vote beaucoup de nouvelles lois sans se poser la question de qu'est-ce que nous avons déjà comme loi et comment faire pour les appliquer.
Et on est aussi un pays qui aime beaucoup modifier sa constitution. On n'arrête pas de modifier la constitution. Mais on est en droit de se demander dans ce cas précis pourquoi le président se lance dans un cirque pareil. Parce que ça nécessite, comme on l'a dit, le vote des deux assemblées, le Sénat lui étant hostile, l'organisation d'un référendum, tout ça pour quelque chose qui existe déjà.
Alors, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron a déjà tenté à deux reprises d'engager une procédure de révision de la Constitution et plus précisément de son article premier pour y inscrire cette fameuse phrase qui précise aujourd'hui que la République garantit la préservation de la biodiversité et de l'environnement et lutte contre le changement climatique. Cette phrase, on a tenté de l'inscrire, enfin Emmanuel Macron a tenté de l'inscrire d'abord en 2018, puis en 2019. Je simplifie, mais à chaque fois la majorité à l'Assemblée nationale a voté cette disposition et cette possibilité de l'inscrire dans la Constitution. À chaque fois, le Sénat a fait montre de son hostilité et le gouvernement a préféré reculer avant même de présenter le texte au Sénat. Emmanuel Macron, lorsqu'il indique aux citoyens qu'il va reprendre leur proposition, il indique d'abord qu'il va reprendre sa propre proposition, parce qu'avant d'être une proposition de la Convention citoyenne, c'était une proposition du gouvernement, et donc d'Emmanuel Macron. Donc il ne pouvait pas dire, bah, écoutez, c'est ma proposition, mais en cours de route, je l'ai abandonnée. Donc il la reprend pour la troisième fois. Il sait pertinemment qu'à la veille de l'élection présidentielle, le risque que le Sénat s'y oppose de nouveau est très élevé. Mais attention, il y a aussi un petit jeu politique. Emmanuel Macron pourra dire, bah, écoutez, moi je suis un défenseur de l'environnement, regardez, ce sont ces sénateurs qui s'y sont opposés. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que certains sénateurs sont déjà montés au créneau dans les médias pour dire « Attendez, on ne portera pas la responsabilité d'un échec de l'organisation du référendum. » Donc il est probable que les sénateurs ne vont pas repousser la proposition d'Emmanuel Macron. Ils vont plutôt l'enrichir de manière à proposer un texte qui peut-être paraîtra inacceptable à Emmanuel Macron. Il va y avoir un jeu de ping-pong entre la majorité et l'opposition sénatoriale, tout ça à la veille de l'élection présidentielle. Mais pendant ce temps-là, je ne suis pas persuadé qu'on parle beaucoup d'environnement quand même.
Arnaud Gossement, restez, ne quittez pas, on se retrouve juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Arnaud Gossement, professeur associé à la Sorbonne sur le droit de l'environnement. Arnaud Gossement, vous disiez tout à l'heure que ce qui figure déjà dans la Constitution, au fond, est plus ambitieux que ce que Emmanuel Macron propose d'y inscrire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors oui, il est très important pour vos auditeurs de décrypter un petit peu cette phrase que le président de la République souhaite inscrire à l'article 1er de la Constitution, puisque si ça se trouve, ils vont être amenés à voter par oui ou par non pour inscrire cette phrase dans la règle de droit la plus importante dans notre pays, la Constitution. C'est une phrase qui précise aujourd'hui, dans son état de rédaction, que la République garantit la préservation, je dis bien la préservation, de l'environnement et de la biodiversité et lutte contre le changement climatique. Dans la Charte de l'environnement, qui existe déjà, vous avez un article 2 qui dit « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Pourquoi la phrase qui existe déjà est plus ambitieuse ? La première, c'est que vous aurez noté qu'Emmanuel Macron propose d'inscrire la République garantie. Mais la République, c'est qui ? C'est pas un sujet de droit, c'est pas quelqu'un contre lequel vous allez faire un procès. Dire que la République garantie, ça reste un symbole. Alors que dans la Charte de l'environnement, il est écrit « toute personne, vous, moi, une entreprise, l'État, toute personne a le devoir de protéger l'environnement ». Donc ça, c'est la première différence entre ces deux phrases. La deuxième différence qui est très importante, c'est le fait que la phrase qui est dans la Charte de l'environnement précise qu'on a le devoir de préserver et d'améliorer l'environnement. Parce que préserver, rester là où nous en sommes, c'est pas très intéressant. Il faut améliorer les choses. Quand vous regardez par exemple la vallée de l'Arve, il est important de réduire le niveau actuel de pollution et pas simplement de le contenir. On pourrait prendre d'autres exemples. Or, la phrase que propose Emmanuel Macron ne parle que de préservation. C'est une phrase donc, de ce point de vue-là, assez conservatrice, où on laisserait les choses un petit peu en l'état. Et puis enfin, autre différence extrêmement importante, la Charte de l'environnement prend soin de parler de l'environnement au sens global. L'environnement, c'est tout. C'est le climat, c'est la biodiversité, c'est la question des déchets, des produits chimiques, c'est les questions de santé. C'est tous les enjeux qui se tiennent les uns avec les autres. Et historiquement, d'ailleurs, les écologistes se sont beaucoup attachés à ce qu'on ne raisonne plus en silos. D'un côté le climat, de l'autre l'énergie, de l'autre la biodiversité. C'était notamment le cas lors du Grenelle de l'environnement en 2007. On avait traité tous les sujets, agriculture, santé, en même temps. Or là, la phrase que propose Emmanuel Macron, vous dissociez le climat de la biodiversité, de l'environnement, comme si les trois enjeux ne se référaient pas tous à un seul, la protection de l'environnement. Donc ça aussi, par rapport à ce qui existe déjà dans la Charte de l'environnement, ça me paraît pas être un progrès, ça me paraît même être un recul. Alors, quand j'entends dire « mais ça sera plus fort », je me dis « mais pourquoi une phrase qui commence par « la République garantie » serait plus forte qu'une phrase qui commence par « toute personne ». Je ne vois pas en quoi le Conseil constitutionnel demain serait plus ambitieux lorsqu'il contrôlera la conformité à la Constitution des lois qui parlent d'environnement et qui malheureusement en parlent parfois excessivement mal. Donc il faut rentrer dans le détail de cette loi, il faut rentrer dans l'analyse des mots qui ont été choisis pour se rendre compte que aujourd'hui, il est important de parler d'amélioration de l'environnement, ce que ne fait pas cette phrase. Alors, je me permets juste d'anticiper sur une autre question qui est très importante. Pour autant, la Constitution est-elle complète? La Charte de l'environnement est-elle une boîte à outils qu'il ne faut pas compléter? Bien sûr que si. Un certain nombre d'universitaires, dont votre serviteur, proposent d'inscrire un principe qui nous manque dans la Constitution et donc dans la Charte de l'environnement, c'est le principe de non-régression. Vous savez, quand vous prenez le métro, vous passez le tourniquet, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Eh bien, ça serait pas mal de faire la même chose dans la Constitution, et d'ailleurs d'autres pays comme la Belgique l'ont déjà fait, d'inscrire un principe tourniquet, un principe de non-régression, qui ne nous permette pas de revenir en arrière lorsqu'on a fait faire des progrès au droit de l'environnement, notamment sur les pesticides. Lorsque le Parlement dit en 2016 « on ne doit plus autoriser les néonicotinoïdes, c'est très important, c'est trop dangereux » et 4 ans plus tard fait le contraire, évidemment qu'il y a un retour en arrière, il y a une régression, et ce principe, le Conseil constitutionnel a refusé de considérer qu'il existait déjà, ça serait pas mal de l'inscrire dans la Constitution.
Arnaud Gosselin, vous disiez tout à l'heure qu'il serait bien, au lieu de voter des lois qui existent déjà, c'est d'appliquer les lois déjà existantes. Qu'est-ce qui nous manque pour le faire?
Et alors ça, c'est vraiment pour moi qui suis pourtant juriste, donc j'aime lire des textes de droit, mais très sincèrement, c'est la question principale. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que nous avons de belles lois, mais personne pour les appliquer, si je caricature un petit peu. Le ministère de l'écologie a encore perdu 1000 emplois cette année. On vote des lois, on vote des nouveaux délits, des nouvelles obligations, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'a pas de juge pour les appliquer. On n'a pas de police environnementale digne de ce nom. On a un Office français de la biodiversité qui n'a pas les moyens de ses ambitions pour réprimer notamment les trafics d'espèces protégées qui sont en plein essor. Malheureusement, la délinquance environnementale, la criminalité environnementale explose dans le monde et en France. Mais on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Il faut des moyens, il faut des fonctionnaires. Il faut non seulement donner des moyens à l'administration et à la justice, mais aussi aux entreprises qui ne pratiquent pas le greenwashing, qui s'engagent vraiment pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une fiscalité, tout simplement, pour encourager les modèles économiques des entreprises qui s'en donnent la peine. Le problème aujourd'hui, c'est que on va peut-être s'occuper pendant plusieurs mois sur un référendum pour débattre d'un nouveau symbole dans la Constitution, mais pendant ce temps-là, la loi de finances pour 2021 ne prévoit pas de nouveaux moyens dignes de ce nom pour les hommes et les femmes qui appliquent toutes ces lois sur l'environnement. Et ça, c'est vrai que c'est une grande déception qu'on se donne pas les moyens. Et puis, dernier point, on pourra en parler si vous le souhaitez, c'est la forme même du référendum est-elle adaptée pour débattre de sujets complexes, hein?
Pourquoi notre politique environnementale paraît-elle manquer d'ambition, en dépit d'un certain nombre de bons résultats d'ailleurs en France en comparaison des autres pays, mais qu'est-ce qui pourrait la booster?
Alors, ce qui pourrait la booster, c'est Nicolas Hulot qui a eu la réponse, à mon avis. Nicolas Hulot qui a pourtant essayé d'être ministre de l'écologie, je pense avec beaucoup de sincérité. Et depuis le départ de Nicolas Hulot, on se rend bien compte que même si Nicolas Hulot, avec sa puissance de frappe médiatique, la sincérité de son engagement, le caractère consensuel de son image, même si lui n'y est pas arrivé, eh bien, on se dit que le ministère de l'Environnement reste un peu le ministère de l'impossible, comme le qualifiait son premier titulaire en 71, Robert Poujade. Pourquoi? Nicolas Hulot l'avait écrit en 2006. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il avait rédigé un pacte écologique qu'il avait fait signer à tous les candidats à la présidentielle, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal. Et à l'intérieur de ce pacte écologique, il demandait à ce qu'on modifie radicalement la place du ministère de l'écologie dans l'appareil gouvernemental. Et il écrivait que, quelle que soit la bonne volonté du titulaire de ce ministère, ça sera toujours un ministère périphérique, satellite, pas un ministère central comme les Bercy. Et donc, il proposait qu'on modifie la composition de Matignon et qu'on crée un vice-premier ministre en charge du développement durable pour que l'écologie soit centrale. Le problème, quels que soient les présidents de la République aujourd'hui, c'est que juridiquement et politiquement, l'environnement, ça reste quelque chose de satellite. C'est une branche de l'arbre, mais c'est pas sa racine. Les politiques publiques en France ne sont pas créées à partir de la nécessité de protéger l'environnement, pour plusieurs raisons. Parce qu'on pense que l'économie et l'écologie, ça se marie pas bien. Parce qu'on pense que l'écologie ne rapporte pas de voix à d'autres partis que le Parti Vert. Il y a plein de raisons, bonnes ou mauvaises, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, l'écologie dans l'appareil d'État, dans l'appareil gouvernemental, n'est pas centrale. Et on a plein d'exemples, que ce soit sur le glyphosate, les néonicotinoïdes, où on voit que le ministère de l'écologie n'est pas écouté. Le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Économie a encore beaucoup plus de poids dans les arbitrages.
Mais on peut aussi dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont eu des conséquences. Je pense à la taxe sur l'essence qui a donné la révolte des gilets jaunes. Et depuis le début de la crise du coronavirus, le MEDEF demande un moratoire sur les dispositifs en faveur de l'environnement. Alors il nous reste que 40 secondes, mais est-ce que l'environnement, ça n'est pas à chaque fois le détonateur de mécontentement ?
C'est mal géré. Très sincèrement, le problème, c'est un problème de présentation des choses. Regardez la taxe carbone qui a donné lieu à la colère des gilets jaunes. Le ministère de l'écologie, Nicolas Hulot, lui-même avait alerté sur le fait que taxer sans redistribuer, sans avoir un caractère social à cette redistribution, allait entraîner ça. Est-ce qu'il a été écouté ? Non. Pourquoi ? Ben, je le répète, parce que le ministre de l'écologie, même s'il est très connu comme Nicolas Hulot, ça reste un ministère périphérique, sympathique, mais pas central, pas pris au sérieux encore.
Merci Arnaud Gossman. On se retrouve dans un instant. On va parler de Noël.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadié.
Nous allons fêter Noël vendredi prochain, le 25 décembre. Il y aura même une exception au couvre-feu le 24 pour le réveillon. C'est dire si c'est sacré. Et pourtant, nous ne connaissons guère l'histoire de cette célébration. Beaucoup de légendes circulent encore à son sujet. Pour y remédier, un historien, Alain Cabantou. Vous êtes auteur avec François Walter de Noël, une si longue histoire aux éditions Payot. Un gros travail d'érudition qui remonte le cours des siècles et remet bien des pendules à l'heure. Depuis quand est-ce qu'on fête Noël ? Exactement.
Alors, ça dépend ce que vous appelez fêter Noël.
Bah, oui. Fêter la nativité, la naissance de Jésus.
Alors, la naissance de Jésus, les premiers signes, c'est le milieu du 4e siècle. Mais c'est très discret, c'est uniquement à Rome et uniquement autour de la papauté. Il faudra attendre probablement le 9e siècle, voire même le 11e siècle, pour que ça commence à se répandre à travers l'Europe.
Bon, enfin, ça fait quand même une paye. Hein. La date du 25 oui. décembre, beaucoup pensent que l'Église catholique a phagocyté une fête païenne. Est-ce que c'est le cas ?
Pas du tout. Pas du tout. Cette idée-là est née à la fin du 19e siècle, d'un part d'un certain nombre d'ethnologues, idéologues aussi, allemands en particulier, qui voulaient voir une espèce de continuité entre la civilisation germanique ancienne et le développement du ce qu'on appelle un germanisme identitaire, et en disant qu'en fait le catholicisme ou le christianisme avait phagocyté effectivement les fêtes païennes anciennes, les fêtes des solstices, mais on se rend compte que la date du 25 décembre le choix est assez complexe, hein, voilà, mais en même temps n'est pas une comment dirais-je, un choix qui s'oppose ou qui vient contrer la fête du soleil à Rome ou la fête de Mitra, etc.
En fait, on prend le 25 décembre parce que si la conception, donc l'annonciation, a eu lieu le 25 mars, ben la naissance a eu lieu 9 mois plus tard, le 25 décembre. Oui. C'est ça, hein, ce qu'on
voilà,
dit à l'époque.
C'est ça. Sauf que c'est l'inverse qu'on a fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on, dans les civilisations anciennes, notamment la civilisation sémitique, on pensait que les grands personnages ou les héros devaient mourir ou naître le même jour que leur date de naissance ou leur date de mort. Oui. Et donc on s'est beaucoup intéressé très vite au moment du christianisme à la date de la mort de Jésus. Ce qui était important, c'était la mort et la résurrection, beaucoup plus que la naissance.
Surtout qu'à l'époque, on ne fête pas les anniversaires.
Exactement.
On n'a aucune naissance, aucune idée de ce
les anniversaires. Du jour où les gens sont nés. On a estimé qu'à peu près la mort de Jésus devait avoir lieu le 25 mars. Et là, on avait des éléments pour le développer. Et du coup, il aurait dû naître un 25 mars. Mais comme sa conception était un peu particulière, on a donc considéré que c'était la conception qui avait lieu le 25 mars et donc du coup la naissance le 25 décembre. C'est une des hypothèses, hein, une des explications, il y en a d'autres. Hein.
Alors ce qui est tout à fait intéressant dans votre livre Alain Cabancou, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien, Noël est célébré en famille, chez soi, mais ce fut longtemps et notamment au Moyen-Âge, une fête collective, une fête assez débridée qui ressemblait beaucoup à notre réveillon du Nouvel An au fond. Hein. Il y avait de la musique, des pétards, on buvait, on dansait, on se plottait.
Oui, tout à fait. Oui. Tout ça dans les églises. Hein.
En plus.
Oui, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que cette ambiance festive dont vous parlez se déroulait au moment de la messe dite de minuit. Et qu'après, effectivement, en fonction des catégories sociales aussi. On festoyait plus ou moins. Hein, ça dépendait.
Oui, et il y avait un petit côté Halloween aussi. On se déguisait, on faisait la quête à la porte des maisons.
Oui, tout à fait. Ça, c'était juste avant Noël. Et c'était surtout les enfants qui le faisaient. Hein, parce qu'on estimait, et ça, c'est un élément qu'on a découvert avec François Walter, c'est que Noël, ce n'était pas simplement la fête de la naissance, mais c'était aussi une fête où les morts jouaient un rôle important. Où les morts avaient joué un rôle important. Et donc les enfants, c'était un peu les passeurs entre les vivants et les morts. Lorsqu'ils faisaient la quête, on estimait que c'était des offrandes qu'on faisait aussi pour les morts.
Ah oui, c'est très Halloween, donc. Hein.
Voilà, oui, tout à fait.
Alors les premiers à se plaindre de tout ça et de ces Noëls totalement débridés ont été les protestants. Dès 1570 à Strasbourg, les protestants s'élèvent contre Saint-Nicolas à l'époque, hein, Saint-Nicolas pourvoyeur de cadeaux.
Oui, tout à fait. Alors ils s'élèvent contre Saint-Nicolas parce que bon, les saints, c'est pas tout à fait leur tasse de thé, si je puis dire. Et du coup, les protestants aussi estiment que, et ils ont raison sur ce point, parfaitement raison, il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'élément scripturaire, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, qui dit que Jésus est né le 25 décembre. Rien du tout. Il y a trois évangélistes qui ne parlent pas de la nativité. C'est Luc simplement qui en parle, et quelques lignes. Voilà. Donc, et Paul, qui écrit un des premiers, ou même les écrits les plus anciens du Second Testament, c'est Paul, dit « né d'une femme », point barre.
Oui, c'est un peu court.
Voilà, c'était quand même un peu court. Et donc, dans ce sens-là, les protestants estiment que c'est une invention du papisme, le 25 décembre, et que bon, s'il faut fêter la naissance de Jésus parce qu'il faut la fêter, puisque c'est quand même l'incarnation, prenons le 25 décembre, mais enfin, ne festoyons pas.
Surtout que c'était Pâques, hein, plutôt la fête chrétienne.
Ah bien sûr,
départ,
fête importante des chrétiens, c'est Pâques, de toute manière.
Hein. Alors, les puritains, quand ils débarquent en Amérique, ils n'emportent pas Noël hein, dans leur bagage, d'où l'importance de Thanksgiving. Les catholiques, ensuite, vont parler de l'abolir au XVIIe siècle. Les révolutionnaires français, en 1793, ils le font, comme toutes les fêtes chrétiennes à l'époque. Les libres penseurs, les laïcs en veulent à Noël. Les communistes vont remplacer Noël par la fête de l'industrialisation. Noël n'a pas bonne presse hein, pendant des siècles.
C'est-à-dire que ça dépend des catégories, mais par exemple, chez les libres penseurs dont vous venez de parler, on parle par exemple de Noël rouge, on parle de Noël des familles. On fête Noël, mais en le vidant complètement de sa dimension religieuse, par exemple. Et vous parliez tout à l'heure des puritains anglais. Les puritains anglais, au moment de la Révolution anglaise, suppriment complètement, mais ils ne suppriment pas qu'ils suppriment la Pentecôte aussi. Hein, ils suppriment tout. Mais en réalité, c'est parce que Noël, pour eux, c'est effectivement une fête qui est complètement débridée et totalement catholique.
On fait une pause, on se retrouve juste après à la Camancou.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous avons avec nous aujourd'hui l'historien de Noël et du Père Noël, Alain Cabantou, qui a signé avec François Walter « Noël, une si longue histoire » aux éditions Payot. On continue notre saga, parce qu'il s'agit d'une saga hein,
oui,
sur
oui.
De longs siècles. Le Père Noël, de quand date-t-il, lui ? Parce que son rôle a été tenu par Saint-Nicolas, par Santa Claus. Beaucoup d'entre nous croient qu'il a été inventé par Coca-Cola, que
non.
Ce sont les illustrateurs de la marque qui,
oui.
dans les années 30, l'ont dessiné tel qu'il est,
oui.
avec sa barbe blanche, sa pèlerine rouge, c'est important, et son traîneau tiré par des cerfs. Alors, qu'est-ce qu'il en est en réalité ?
Alors, c'est une histoire qui est extrêmement compliquée, parce que vous aviez parlé de Saint-Nicolas tout à l'heure. Saint-Nicolas, c'est celui qui apporte des cadeaux, voilà, et aux enfants. Mais on fête Saint-Nicolas le 6 décembre. On ne fête pas Saint-Nicolas déjà le 25 décembre. Et effectivement, on voit au XVIIe siècle, par exemple, apparaître le mot « bonhomme Noël ». Mais en Angleterre, par exemple, ce bonhomme Noël n'a pas de forme. C'est aussi celui qui peut apporter des cadeaux. Mais dans d'autres régions ou dans d'autres pays... C'est pas le bonhomme Noël, c'est pas Saint-Nicolas qui apporte des cadeaux. C'est par exemple la Bafana en Italie ou les rois mages en Espagne. Et puis dans le monde protestant, évidemment, pas de Saint-Nicolas, puisque pas de saint. Et donc du coup, c'est l'enfant Christ et pas l'enfant Jésus, l'enfant Christ qui apporte des cadeaux. Alors autour de tout ça, ce qui va se passer, c'est que Saint-Nicolas, effectivement, va être exporté en Amérique. Et puis, au début du 19e siècle, un pasteur écrit un poème pour ses enfants, une histoire avec effectivement quelques vers, mais pas seulement, où il raconte que Saint-Nicolas est arrivé grâce à des Hollandais et s'est installé en Nouvelle-Angleterre et s'est installé dans la région de New York, etc. Et puis, c'est repris par un autre écrivain américain une quinzaine d'années après. Et puis, progressivement, ces histoires sont illustrées et on voit apparaître...
dès le début du 19e, il y a des images où on voit le Père Noël habillé en rouge avec une barbe blanche qui descend de la cheminée.
Mais tout petit.
Il est tout petit.
Et du coup, c'est un illustrateur qui s'appelle Thomas Nast qui, dans les années 1860, lui donne sa première version que l'on connaît, c'est-à-dire un peu plus fort, plus joufflu, mais en rouge et en blanc. Enfin, et puis, on y ajoute un traîneau, des rennes, etc. Et c'est comme ça qu'il va retraverser l'Atlantique, en définitive.
Mais plus tardivement.
Mais très tardivement.
Parce qu'entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale, on ne parle pas du Père Noël. 1843, c'est l'année du célèbre conte de Charles Dickens, A Christmas Carol, oui. Un chant de Noël en français, dont on a fait lui aussi l'inventeur. Alors non pas de Noël, mais du réveillon de Noël, tel que nous le connaissons. Ce serait Dickens.
Ce n'est pas forcément quelque chose de farfelu. C'est vrai que jusque dans les années 1840, on se rend compte que chez les Anglais, Noël n'a pas énormément d'importance. Et puis, effectivement, Dickens, avec son premier Christmas Carol, parce qu'il en a écrit,
il en a écrit un certain nombre,
avec ce repas qui décrit, notamment autour de cette espèce de grincheux de Scrooge.
Scrooge, avec la dinde. C'est le personnage principal, un personnage récurrent chez Dickens.
Avec la dinde, par exemple, avec le Christmas pudding, etc. Effectivement, a donné un élan, si bien que c'est vrai, par exemple, qu'à partir des années 1870, eh bien, dans certaines entreprises, les ouvriers, à partir de septembre, mettaient dans une caisse commune une petite rémunération pour qu'au mois de décembre, ils puissent acheter une dinde. Voilà. Donc, effectivement, on peut dire que Dickens a eu un rôle important dans la construction du Noël anglais qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est pas l'inventeur du Noël anglais en tant que tel. Hein.
Et le sapin, alors le sapin de Noël, ce serait le prince Albert, le mari allemand de la reine Victoria qui l'aurait popularisé. Avant cela, il y avait des arbres de Noël, mais ça n'était pas des sapins.
Alors, les sapins de Noël existent. En tant qu'arbre de Noël, on a des traces au 14e, au 15e siècle, en Alsace par exemple, ou dans les pays germaniques. Mais c'était dans les espaces publics. Autrement dit, pas question d'acheter un arbre de Noël pour mettre chez vous à ce moment-là. Et les premiers arbres de Noël que l'on voit dans l'espace domestique, notamment dans les gravures, c'est le début du 19e siècle. Et comme les pièces sont petites, on les accroche. On les accroche au plafond.
Et en France, finalement, puisque...
Et en France, très tardivement.
Ah oui ?
Très tardivement. Par exemple, on avait lu pour l'affaire, on avait relu le livre de Jacques Elias, qui disait...
Le
cheval d'Orgueil, qui disait, mais pas un paysan en Bretagne n'aurait eu l'idée d'arracher un arbre pour le mettre chez lui. Enfin, c'était ça, c'est quelque chose... c'est une invention qu'on peut véritablement dater pour un certain nombre de pays... notamment de pays latins, vraiment après la guerre, quoi, après la Deuxième Guerre mondiale.
On n'en a pas fini avec Noël et avec le Père Noël. On se retrouve dans un instant avec Alain Camantou.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Alain Camantou et les jouets. Alors depuis quand offre-t-on des jouets aux enfants à Noël ? On dit que c'est une invention du XXe siècle, une invention des grands magasins, de la société de consommation. Vous dites que c'est bien antérieur en fait.
Oui, on ne distribuait pas de jouets en gros jusqu'au XIXe siècle à peu près. Même si, notamment dans les pays germaniques, le Noël va devenir tellement familial que c'est l'enfant qui va être au centre de la fête. Ça va être la fête de famille. Et non pas de la famille, mais de famille, où effectivement, dans un certain nombre de milieux, l'enfant va recevoir un présent ou des présents. Et effectivement, après le développement des grands magasins, au milieu du 19e siècle, des catalogues qui vont être peu à peu distribués, eh bien, il y aura une espèce d'habitude qui va être prise, mais très inégale, évidemment, selon les catégories sociales. Il y a des enfants qui ne reçoivent rien, parce que les parents n'ont pas d'argent. Hein. C'est dans beaucoup de mémoires de personnages du 19e siècle que nous avons lus, des personnages qui ensuite ont réussi, mais qui étaient issus de milieux populaires. Il y en a un qui dit, ben moi, mon cadeau de Noël, c'était feuilleter le catalogue qu'une des amies de ma mère recevait, le catalogue où il y avait les jouets, mais c'était tout. Et d'autres recevaient une pipe, une petite pipe en sucre. Voilà,
ou une orange. Il y a beaucoup de...
Une orange
les
aussi.
Grands-parents aiment bien dire à leurs petits-enfants.
Voilà,
quand
c'est ça.
Quand j'étais petit, à Noël, je n'avais qu'une orange.
Mais c'est sûrement vrai, parfois c'est faux, mais parfois c'est sûrement vrai, mais c'est pour montrer la disparité quand même entre...
Mais on a l'impression, quand on lit votre livre, qu'au fond, on offrait à Noël à ceux qui avaient moins que les autres, donc les enfants. Les enfants étaient pris comme dans un rôle subalterne. Mais au fond, ce serait un héritage des étrennes du jour de l'an qu'on donne à ceux qui ont moins, c'est-à-dire les domestiques.
Vous avez raison. Mais à ce moment-là, au moment des étrennes, qui se faisait souvent d'ailleurs au moment de Noël, c'était aussi un échange, par exemple, entre maître et serviteur. Le maître donnait des étrennes au serviteur qui, lui, de son côté... donner au maître quelque chose aussi, d'une autre façon.
Mais on voit bien que Noël, qui au départ était une fête collective assez égalitaire, est devenue ensuite une fête plus inégalitaire qui se passait derrière les murs de chacun. Enfin.
Absolument, oui, c'est ça.
On ne voit plus le Noël des autres.
Exactement, c'est exactement ça. C'est ce qui d'ailleurs... explique un petit peu la pérennité de cette fête, même si on lui donne des sens complètement différents, c'est cette plasticité à se transformer, à se modifier, à s'adapter aussi, puisque des pays qui n'ont aucune tradition chrétienne, par exemple, fête Noël, je pense au Japon, les Japonais font du 25 décembre la fête des fiancés, mais ils fêtent le 25 décembre. Ou par exemple... les Pères Noël qui existent aujourd'hui au Brésil ou en Argentine, alors que c'est l'été. Enfin, je veux dire, il fait chaud. Voilà, donc c'est cette forme d'adaptation, effectivement, et cette transformation au passage du collectif à l'entre-soi.
Et la crèche de Noël, vous dites dans votre livre que la première qu'on a retrouvée, c'était en 1562, celle des jésuites à Prague. Et en France, c'était fin du XVIIe siècle.
Oui, c'est ça.
Également dans une église, ce n'était pas encore chez les
voilà,
gens. Hein.
Exactement, c'est comme le sapin. Et alors effectivement, on a trouvé d'autres crèches depuis, on a trouvé des crèches antérieures à la crèche de Prague, dans des églises. Et puis progressivement, parce que parfois, dans certains endroits, les crèches étaient mal acceptées. Dans d'autres endroits, elles étaient parfaitement acceptées. Je pense à l'Alsace, par exemple. Et peu à peu, on a commencé à construire, à la fin du XVIIIe siècle, des petites crèches, et de façon à ce qu'elles deviennent, comme le sapin, un élément domestique. Là aussi, ça participe de l'entre-soi.
Et les lumières de Noël, ce ne sont pas non plus les grands magasins qui les ont inventées au XXe siècle ?
Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où il y avait quand même des lumières relativement réduites, notamment dans les villes, on se rend compte que les municipalités au XVIIe ou XVIIIe siècle prennent des arrêtés, enfin j'appelle ça des arrêtés, ce n'était pas des arrêtés à l'époque, mais pour dire la nuit de Noël, on illumine. Mais on illumine pas vraiment pour fêter Noël, mais pour essayer de juguler les désordres qui se passent.
Les débordements, toujours.
Voilà, c'est ça, c'est la surveillance. Et puis progressivement, effectivement, comme la symbolique de la lumière est très importante dans la fête de Noël, on a dévié un petit peu, et ce qui fait que les illuminations ont pris une proportion absolument, absolument phénoménale.
Et alors l'esprit de Noël qui est exalté aujourd'hui dans les films américains où l'on doit retrouver son âme d'enfant, ça existe depuis quand ça ?
Écoutez, d'abord je ne sais pas ce que c'est trop l'esprit de Noël. Je dirais simplement, dans un premier temps, que l'esprit de Noël c'est quand même l'attention à l'autre. Au moment des repas familiaux, il y avait toujours un reste de repas pour quelqu'un qui pourrait passer. On gardait une place pour celui ou celle qu'on pouvait accueillir éventuellement. Au XIXe siècle, se développent beaucoup aussi des institutions charitables qui mettent l'accent sur des repas à servir, sur auprès des enfants pauvres ou des familles pauvres. Alors des fois, ça déborde complètement. J'ai trouvé un exemple à New York à la fin du XIXe siècle où dans un espace, on construit une espèce d'arène pour faire manger les pauvres et les riches viennent voir comment mangent les pauvres en payant. Je veux dire, voilà. Donc cette attention à l'autre un petit peu déviée.
Il y a l'affaire, et on terminera par là, il y a l'affaire de Dijon en 1951.
Oui.
Il y avait eu un article de Claude Lévi-Strauss, mais il s'était un peu trompé. Je crois qu'il avait mal analysé. Au fait, à Dijon en 51, il y a un Père Noël qui est brûlé sur le parvis de la cathédrale comme usurpateur et hérétique. En fait, c'est parce qu'il y avait des SDF qui étaient là.
C'est
ce que vous racontez. Et que tout à coup, on a vu des scooters passés qui faisaient de la réclame pour les grands magasins. Ça a choqué.
Exactement ça. Et on a le témoignage direct du prêtre qui s'occupait, enfin qui est mort il y a quelques années seulement, donc on a pu l'interviewer il n'y a pas longtemps, en disant mais c'est pas du tout ça qui s'est passé.
C'était pas l'église qui tout à
pas
coup
du tout. Au Père Noël. L'évêque n'était pas au courant, le clergé local non plus. Et du coup, ils ont vu passer, ils s'occupaient d'un foyer de gens qui étaient vraiment sans boulot, et ils ont vu passer, comme vous venez de le dire, des Père Noël en scooter qui faisaient de la pub pour les grands magasins de la ville, et ça les a complètement choqués. Ils ont proposé de faire un Père Noël et de le faire brûler publiquement. Alors évidemment, après il y a toutes les interprétations possibles, effectivement, mais c'est ça l'affaire de 51.
Merci Alain Cabantou d'être venu nous raconter les aventures de Noël et du Père Noël. Votre livre coécrit avec François Walter s'intitule « Noël, une si longue histoire » et il est paru aux éditions Payot.
Merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé demain, arrive à son terme. Je vous souhaite un très bon dimanche et de bonnes fêtes. On se retrouve le samedi 9 janvier. Dans quelques minutes, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Mickaël, vous recevez la ministre des Transports.
Et du travail, surtout cette fois-ci, Elisabeth Borne. Donc la France est le pays qui se protège le plus, ses entreprises et ses salariés, c'est vrai. Mais jusqu'à quand peut durer l'argent magique?
Bonne émission, Mickaël.